Muy bien, pusimos comenzar o debate. Rogamos, como sempre, que as intervencións sexan o máis escuetas posible. Quen poda intervir en francés que o faga, que non en castelán, falando despacio, e se hai problemas de traducción, pois botaríamos aquí unha man entre todos para traducirlo. Castelán falando despacio, pues, si non, botamos aquí unha man. No hai problema.
Cuando usted habla de que la nación moderna, la nación que es moderna, es una asociación de un elemento, digamos, universal, contractual, y un elemento particular que, en cierto modo, según usted escribe, está también, en cierto modo, marcado por un aspecto universal, en el sentido de estándar. Usted afirma, y es algo en lo que yo no había reparado sin ser un especialista en absoluto, que efectivamente con el surgimiento de la nación en la época moderna ya bien avanzada, hay como un intercambio de ideas y de experiencias entre los distintos teóricos de la nación, de manera que se construye una nación paradigmática, una nación modélica, una nación estándar, ¿no? Y en ese sentido, ese elemento particular estaría de alguna manera marcado por la universalidad, en cierto modo, ¿no? Por lo menos tal como yo la interpreto a usted. La universalidad en el sentido de que toda nación, dentro del canon de lo que se debe estimar como nación, toda nación debe tener los mismos, o casi los mismos elementos, los cuales usted enumera. Eso me pareció verdaderamente interesante y digno de discutir. En cualquier caso, yo tengo la impresión de que la cuestión de la identidad nacional, como escribe, pues, por ejemplo, Bauman, el sociólogo alemán, la identidad, dice Bauman, crece sobre las ruinas de la comunidad y solo florece bajo la promesa de la resurrección de los muertos. Con esto quiere decir Bauman que la problemática de la identidad surge con la crisis de la comunidad, en el sentido, si se quiere, de Tunis, del sociólogo alemán, que distingue entre comunidad y asociación. La comunidad, pues bueno, se conoce todo el mundo, estaría caracterizada por la pequeña escala, la relación cara a cara, la inmediatez, frente a la asociación o a la sociedad, que estaría caracterizada, bueno, por lo contrario, por la relación impersonal y contractual.
Alors, pour répondre brièvement à cet ensemble de questions très argumentées et très, très riches, je reviendrai d'abord sur ce que vous avez posé comme question à partir de Bauman, à savoir la question de savoir si l'identité correspond à une sorte de crise de la communauté. Oui, peut-être, mais alors à ce moment-là, je prendrai le terme de crise dans son sens étymologique. Et je le rattacherai peut-être à une idée d'analyse liée au changement. Pour moi, il est clair que l'idée de nation est une idée, enfin, une conception de la modernité et qui est liée précisément au passage où se forme la société moderne. Mais je crois que ce qu'on voyait à travers l'exposé que j'ai fait, c'était qu'à mon sens, cette société moderne va se légitimer comme une communauté. C'est, pour reprendre les termes allemands, une Gesellschaft qui se donne, qui s'imagine comme une Gemeinschaft. Et là, je renvoie là au terme de Benedict Anderson, Imagine Community. C'est-à-dire que la caractéristique de la nation moderne, comme il dit, c'est un ensemble où des individus qui ne se connaissent absolument pas, qui ne se verront jamais, savent pourtant qu'ils font partie de la même communauté, et même qu'ils vont faire les mêmes choses aux mêmes heures, ou penser les mêmes choses au même moment. La presse va être ce formidable moyen de créer une communauté imaginée, où au même moment, dans des espaces très divers, des individus, éventuellement de milieux sociaux très divers, vont lire, apprendre, penser et commenter les mêmes choses. C'est extrêmement moderne. Mais c'est une société d'individus, d'ailleurs, la nation c'est le moment où se forme le monde de l'individu, mais d'individus qui se pensent comme membres d'une communauté. Et tout le travail de légitimation de la nation moderne, ça va être de se donner à voir, à penser, à s'imaginer comme une communauté. Et je pense que l'intensité du travail fait pour que cette société moderne justement s'imagine comme communauté, est lié à cette formidable opération qui va retirer toute légitimité à la transcendance. Les sociétés prénationales pensent qu'elles existent par volonté divine. Les sociétés modernes pensent qu'elles existent de manière séculière par elles-mêmes. Elles doivent se légitimer par elles-mêmes. Mais si elles peuvent se légitimer par elles-mêmes, c'est qu'elles sont plus que ce qu'elles sont, en quelque sorte. Je pense que c'est, à mon avis, ce rapport entre société et communauté. La nation moderne, ce n'est pas la fin de la communauté. C'est l'idéal de la communauté pour un monde d'individus non communautaires. Alors, l'autre question que vous m'aviez posée, c'est celle des sociétés, des nations sans État. Bon, c'est, je le dis clairement, une question que vous, ici, vous connaissez mieux que moi, qui vient d'un État préalable à la nation et d'un État lourd, hein, d'un État qui encadre bien la nation. Donc je suis moins sensible sans doute que vous à cet aspect des choses. Ce qui me semble de toute façon important actuellement, c'est de penser, enfin c'est de dire que notre réalité profonde actuellement, c'est une réalité post-nationale. L'État-nation à l'ancienne, qui était une force de contrôle, de régulation, d'organisation de l'économique, ça n'existe plus. La crise qui se déroule actuellement, en ce moment, et qui nous atteint, nous montre bien l'impuissance de l'État ou de l'État-nation face au grand processus. Et nous sommes en permanence maintenant confrontés à des questions qui nous montrent l'État lui-même, à l'ancienne, n'est plus une force opérante. Hein, les questions environnementales, on parlait aujourd'hui avec certains des marées noires que les Français et ici les Galiciens ont enduré. Ces questions-là sont des questions qui transcendent, qui dépassent la question de l'État. Donc c'est à une autre échelle que nous devons maintenant penser notre avenir et notre fonctionnement politique. Et c'est pour ça que je m'intéresse plus particulièrement à la question de l'Union européenne, qui est une manière pour nous de commencer à penser un autre mode de rapport aux politiques, à la citoyenneté et à la solidarité entre nous. La question de la nation sans État, bah, d'une certaine manière, devient beaucoup plus simple dans ce cadre. Et dans un cadre post-national ou par de la supranationale, cette tension forte qui peut exister entre les nations sans État et les États qui veulent se définir comme nation, cette tension perd beaucoup de sa vigueur et éventuellement de sa violence.
Bien. Ce que je voulais dire, vous venez presque de le dire en répondant à mon collègue. Et ma réflexion, c'est surtout le cas, notre cas, que nous avons une nation et dans un État. Et d'autre part, nous appartenons à l'Europe. Alors, je crois que les Galiciens, nous avons, en général, ou pour la plupart, le sentiment qu'en ce moment, nous n'avons pas un État, mais nous avons une communauté politique qui a un Parlement et un tribunal de justice et vraiment un exécutif. D'autre part, les Galiciens, parce que nous avons une large histoire d'émigration, nous savons qu'on est des pays européens avec un sentiment de n'appartenir pas à cette Europe, que c'était une Europe démocratique, tandis qu'ici, il y avait encore d'autres régimes. Et je crois que, c'est pour ça, si je ne me trompe pas, les Espagnols ont une grande adhérence à la communauté européenne. Alors, ma réflexion, c'était en général que les identités sont multiples, on peut bien les partager, pour moi, c'est une expérience, et je crois que pour beaucoup de Galiciens. Et par rapport à votre doute sur l'identité européenne, et je crois que dans la plupart des gens, et même qu'ils ne sachent pas bien les définir, a un sentiment de ce qui est l'Europe. Et je crois qu'au point de vue des valeurs, au point de vue d'une histoire, beaucoup de fois entre guerres, mais je crois qu'entre les guerres, entre les différents, et on reconnaît aussi les semblances, et par la religion. Alors, de ce point de vue, je crois qu'il y a une des choses qui touche plus l'élargissement de l'Europe, c'est la question quand on entre dans d'autres pays que voir la Turquie. Alors, c'était seulement cette réflexion.
Je vous remercie des éclaircissements que vous apportez et puis de l'ouverture que vous donnez à nos propos. Il me semble que en ce qui concerne l'Europe, il est certain que nous sommes concrètement, pratiquement, de plus en plus européens, beaucoup plus qu'il y a 25 ans certainement, que nous avons pris l'habitude de vivre en européen. Un exemple quand même tout à fait significatif, c'est que nous avons adopté très facilement une monnaie européenne et que ça nous paraît de plus en plus normal d'avoir une monnaie commune, alors que c'est un élément fort de la souveraineté étatique normalement, et qui nous paraît de plus en plus bizarre que des Européens puissent ne pas avoir notre monnaie commune. Nous avons pris l'habitude de considérer nos frontières comme des lieux qui se passent sans problème et sans justification. Nous avons pris l'habitude de circuler en Europe. Et nous vivons dans un espace où la plupart des lois qui régissent notre vie sont des lois de type européen. Et puis nous avons des modes de consommation et des modes de vie de plus en plus européens. Nous avons pris l'habitude de travailler ensemble de plus en plus fréquemment, de visiter le reste de l'Europe. Enfin, la réussite du programme Erasmus, par exemple, est aussi un exemple frappant. Ce qui me semble encore fortement manquer, c'est un rapport politique à l'Europe. C'est une conception politique de l'Europe et les rapports entre l'Union européenne et les citoyens de l'Europe. Et nous pensons encore quand même l'action politique en termes nationaux. Et nos hommes politiques plus encore. Une carrière politique, ça se fait dans le cadre national aujourd'hui. On ne pense pas encore de véritable carrière politique dans l'espace européen. Et nous avons du mal à imaginer ce qui, à mon avis, serait quand même très important, des partis politiques européens. Nous avons encore du mal à imaginer que nous puissions être beaucoup plus proches d'un Européen vivant dans un pays très éloigné que d'un de nos concitoyens qui a des opinions qui sont très différentes des nôtres. Et je pense que c'est encore cela qui nous reste à construire. La question étant de savoir, est-ce que nous pouvons construire ce rapport aux politiques sans faire un passage par le rapport au culturel? Mais alors, de quel ordre? Et je pense, alors là, ça me permet de revenir à la première question que nous avons posée, que vous avez abordée. Quel est, finalement, l'organigramme de l'espace que nous traçons dans un cadre européen? Parce que cet organigramme de l'État-nation, avec un centre et puis des hiérarchies, qui faisait qu'il y avait d'abord une identité nationale, puis secondairement des identités religieuses, des identités politiques, des identités régionales, ce cadre hiérarchisé rigide a eu son sens et son efficacité à une époque. Je ne pense pas qu'il soit efficace, adapté à notre époque. Et je pense que nous devons imaginer un cadre de l'Union européenne qui soit différent, qui soit polycentrique, différemment hiérarchisé, avec des voies de circulation, de l'information, du débat, de l'échange, qui ne soient pas orientées de manière unilinéaire, qui soient beaucoup plus souples. Un monde d'Internet, qui est le monde dans lequel nous vivons aussi réellement. Mais je crois que nous devons faire l'effort d'arriver à concevoir le politique de cette manière, ce qui n'est pas simple.
À la fin de ta conférence, tu dis dans un changement conceptuel aussi radical que celui qui a inspiré il y a des siècles la formation des nations. Sur ce changement conceptuel, peut-être qu'il soit encore nécessaire le concept de culture, par exemple.
Mais je pense que nous ne devrions jamais oublier l'énorme travail qui a été accompli pour passer du monde de l'ancien régime au monde des nations dans lesquelles nous vivons. Et il y a eu vraiment un travail collectif extrêmement intense de changement conceptuel qui a produit de nouvelles notions, de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de concevoir l'homme, le monde dans lequel il vit, les rapports entre les individus. Et nous sommes les héritiers de ce changement qui a ouvert des possibilités extraordinaires, je pense. Le monde qui a inventé les individus que nous sommes et toutes les possibilités de changement, d'association, de liberté intellectuelle, de développement qui en sont résultés. Je pense que nous sommes maintenant confrontés au challenge, à la compétition, pour rendre notre monde vivable et puis pour poser aussi des valeurs qui sont des valeurs morales, des valeurs de justice, des valeurs d'égalité, de tolérance, de bonheur, de progrès. Nous devons à nouveau faire un changement conceptuel. Il ne sera pas le fait d'un seul individu. Déjà, il y a deux siècles, il a été nécessaire un énorme travail collectif, beaucoup d'échanges. Je pense que là encore, il faut envisager quelque chose de très vaste et de très intense. Mais je pense que les changements extrêmement forts que nous avons vécus depuis 20 ans dans le monde de la production, de la communication, des échanges, de la technologie, nous imposent de repenser beaucoup de choses, et notamment le politique. Mais que la culture ait toute sa place là-dedans, je dirais oui, qu'elle me semble être la ressource fondamentale pour penser le changement, comme elle l'a été il y a deux siècles. Il y a deux siècles, l'art et la littérature ont été les ressources formidables qui ont permis de changer le monde, de penser les moyens de changer le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons à nouveau besoin de solliciter l'art, la littérature, la peinture, toutes les formes d'expression culturelle qui sont des ressources formidables pour anticiper sur des changements conceptuels, pour anticiper, pour représenter et partager.
Sí, a mí me gustaría preguntarle, porque me pareció interesantísimo lo que plantea con respecto a la construcción de la, yo lo llamaría colectividad nacional, para descargar la idea de esa comunidad fuerte. Y me gustaría saber, porque en su exposición solo aparecía y hizo una pequeña inflexión sobre que las mujeres somos minoría, la pregunta es si en la construcción nacional hay una construcción basada en el género. Sí. Porque las naciones se reproducen biológicamente y eso genera un estatuto de ciudadanía que desde Grecia y la democracia ateniense viene marcada en función de que es ciudadano el que es hijo de un ciudadano y una ciudadana. Sobre todo, un momento, porque el contrato que da lugar a la construcción nacional moderna es un contrato que está basado en la crítica a una metáfora utilizada y a una analogía, que es la analogía entre poder paternal y poder político. La ruptura de eso supone que se pueda hacer un contrato entre iguales que va a construir evidentemente la nación. Entonces yo suscribo la crítica de que se oculta normalmente en los elementos de la construcción nacional el peso del género, por decir, el término, no podemos entrar para entendernos, ¿no? Y en la literatura, en el arte, en toda esa construcción que usted destaca muy bien, se está también construyendo una imagen de mujer perfecta, de familia perfecta, del vínculo conyugal, de cómo tienen que ser las relaciones sexuales. Para mí van unidas, no están separadas. Entonces creo que en todos esos elementos que usted señala en la construcción, mi pregunta es, ¿está oculto o usted cree que realmente ese es un elemento decisivo que cuando hay problemas aparece claramente? Las que guardan las fronteras son las mujeres, simbólicamente.
Je pense quand même que la discrimination des femmes, l'oppression des femmes ou la subordination des femmes n'est pas apparue avec la nation, qu'elle était antérieure, et que des sociétés non nationales sont des sociétés aussi où le rôle social de la femme est particulièrement déterminé, enfermé, délimité. Que la forme nationale n'ait pas abouti immédiatement à une libération des femmes ou à une non-discrimination des femmes me paraît quand même devoir être imputé au poids de la domination masculine qui marque quand même la plupart des sociétés humaines. On peut quand même penser que dans ce processus qui est celui dans lequel se constitue la nation moderne, qui aboutit à la notion d'individu, à la notion de relative liberté d'évolution de l'individu dans un ensemble social, à des phénomènes aussi de standardisation des positions, ça permet à terme de lever les discriminations enfermant les femmes dans un rôle. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, l'enfermement des femmes dans une position minorée, limitée, peut apparaître comme une contradiction scandaleuse. Mais il faut pour cela qu'on ait commencé à introduire de l'indifférenciation et de la banalisation des positions sociales, et donc d'introduire la notion d'individu. La notion d'individu n'implique pas immédiatement l'émancipation de la femme, mais au bout d'un moment, elle fait apparaître comme scandaleuse la non-émancipation de la femme. Mais je ne crois pas que ce soit la nation qui soit à l'origine de la domination masculine.
De la nation, la détermination politique et la culturelle. Non? Et c'est vrai qu'on trouve les deux déterminations dans la formulation nationale, mais à ce moment, vous croyez que la détermination politique est un refus et que prédomine à nouveau la détermination organiciste, irrationnelle de la nation et culturelle. Et cela, on le voit par exemple dans le centre l'Europe, avec les nouvelles nations et aux Balkans et tout ça, où, disons, la pureté ethnique et tout ça, parce que même, vous l'avez dit, en France, qui serait le paradigme, disons, de la construction nationale, rationnelle et tout ça, même ça, vous l'avez dit, enfin, Sarkozy avait beaucoup d'intérêt avec la langue et avec une nation qui a l'origine et dans la nuit des temps et tout ça. Parce qu'ici, par exemple, dans la Galice, et le professeur Maïs pourrait l'expliquer mieux, il y a toujours ces doubles déterminations, mais surtout avec une beaucoup plus importance de la détermination culturelle, beaucoup plus, enfin. Et même il y a un mot d'ordre, quelqu'un dans quel nom, Galice ou nation. Qu'on ne veut pas, c'est des choses, enfin, dans les manifestations et tout ça, la Galice est une nation. Et donc, c'est dans l'origine des temps, c'est une vision mythique, non? Et dans la nuit des temps, que c'était l'origine de la nation. Cela explique, enfin, justifie tout. Et je crois qu'enfin, la nation, on ne la construit pas, la nation est faite déjà. Et je crois que c'est dialectique, cette opposition, et avec beaucoup de tensions entre une vision politique, démocratique, rationnelle, et tout ça, et la vision culturelle, irrationnelle, et idéaliste, enfin, et organiciste, que vous l'avez dit. Et à ce moment-là, je crois que dans l'Europe, au moins dans l'Europe, si vous croyez qu'est en train de dominer la vision culturelle, et enfin, beaucoup plus que sa vision politique de la nation qui est construite, et pas de la nation qui est donnée, qui vient, enfin. En différence, par exemple, de ce qui se passe en Afrique. Donc, la nation, il y a beaucoup l'idée de la nation en construction. Même les pays sont connus avec le mot des nations en construction. Donc, la nation est construite, on doit la construire toujours, et on n'est jamais fini. Non? Maintenant, ici, c'est la nation est finie, est fermée, déjà, enfin, c'est... Je crois que, enfin, les pays centre-européens... Si vous croyez qu'à ce moment-là, c'est ça qui domine.
Je pense que les nations se sont construites en affirmant qu'elles avaient toujours existé. Et souvent même, on a commencé pour une nation tout à fait émergente par dire qu'elle existait en fait depuis 2000 ans, mais qu'il fallait la réveiller, etc. Bon. Donc, l'association du politique et du culturel dans la construction nationale, elle est constante. Mais le culturel, voire l'ethnique, arrive sur le devant de la scène quand le politique est vraiment en crise, n'arrive pas à s'exprimer. Et à ce moment-là, il y a un déséquilibre. Le non-débouché en termes politiques d'une aspiration va se traduire par une surenchère de l'affirmation culturelle, voire ethnique. Ou l'orientation politique dans un sens particulièrement régressif, enfin, ça a été le cas de toutes les poussées des extrêmes droites nationalistes, à commencer par le nazisme dans les années 30, aboutit à des surenchères effroyables de la dimension culturelle, ethnique, hein, voire raciale dans ce cas. Alors, ce qui se passe dans l'ancienne Europe communiste, voire d'une manière générale, d'ailleurs dans l'ancienne URSS, c'est actuellement une poussée d'affirmation nationaliste, culturelle, ethnique, extrême, y compris dans le cadre de la Russie de Poutine, qui est assez inquiétante, effrayante même de ce point de vue, avec des enseignements de culture nationale qui nous rappellent de sinistres périodes. Et là, je crois qu'on doit voir clairement le fait qu'il y a une vraie crise du politique et l'impossibilité de traduire en termes de construction d'une société plus ou moins démocratique une tension qui va s'exprimer sur le mode culturel et ethnique.
Je voudrais faire ma félicitation pour vous pour votre intervention qui s'est écoutée avec un grand intérêt. Il y a beaucoup de questions, mais seulement je parlerai seulement sur les thèmes qu'a prononcé mon copain de table. Je crois que les mythes, c'est une des sujets très importants dans les thèmes des nationalismes. Alors, je pense que les mythes, quand une création mythique, mais très valable pour faire une définition de le phénomène de le nationalisme. En train de décider un type de nationalisme, je préfère une mélange de deux que vous avez proposé. Et je crois que c'est parfait comme formule politique et comme formule d'habitude en la pratique. Alors je vous propose ce modèle et je vous prie une réponse si vous l'avez, c'est ma proposition. Merci beaucoup.
Je vous remercie de cette question. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment compris ce dont vous parlez. Ici, je me suis exprimée à titre historique, historienne, étudiant des processus qui ont commencé déjà depuis deux siècles et dont on ne peut que constater la réalité. Savoir si maintenant je propose un nouveau type de nation, non, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas mon propos. Et comme j'ai essayé de l'indiquer, je pense qu'en tant que citoyen, la question qui se pose plutôt pour nous maintenant, c'est celle de nouvelles organisations de type supranational comme l'Union européenne, qui me semble là encore un chantier à terminer. Pour ce qui est de la nation, beaucoup de choses ont été faites. Nous avons beaucoup de réalisations de nations qui ont été faites depuis le siècle dernier que nous pouvons observer, étudier. Proposer un nouveau type de nation, je ne suis pas sûre que ça ait d'intérêt pour le 21e siècle. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de penser notre rapport d'individu, de groupe, de communauté dans un espace de nouveau type politique. Puisque nous sommes en train de devoir imaginer quelque chose au-delà de l'État, tel que nous l'avons connu.
Si
si la nación moderna es un cuerpo político y una comunidad de cultura, una comunidad política diferente de la nación moderna, como sería una futura Unión Europea, que sería un tipo de comunidad política distinto, pero en todo caso también tendría que ser un cuerpo político y una comunidad de cultura. Entonces, ¿cuál sería ese cuerpo político en el caso de Europa? En el Tratado Constitucional se decía que el elemento necesario para integrar, para formar parte de Europa, era ser un Estado de Derecho, donde los derechos fundamentales del ciudadano fueran respetados y los derechos de las minorías también. Ese sería el elemento básico de ese cuerpo político. También se dice que para entrar en la Unión Europea los Estados solicitantes tendrían que tener una economía de mercado, una economía social de mercado altamente competitiva. Sería otro elemento constitutivo de esa comunidad. Los elementos de comunidad cultural, claro, en el caso de Europa son problemáticos, pero de todas formas, usted hacía referencia al arte. El gótico, el románico, el barroco, el renacimiento tienen muchas variedades en Europa, pero todas se reconocen como variedades de esos estilos comunes. O sea, que mismo la arquitectura es un elemento también cultural aglutinante, porque sus variantes nacionales no deforman ese carácter constitutivo de esa unidad artística de los distintos estilos que hubo en Europa, como el románico, el gótico, el barroco, ¿no? Hay otros valores culturales como constitutivos de Europa, como podrían ser la secularización de la religión cristiana, otro elemento que podría ser un elemento cultural aglutinante, otros como la tolerancia liberal, en fin. Pero el problema está en la comunidad cultural en cuanto al elemento lingüístico. Evidentemente, claro, aunque el inglés funciona o podría funcionar como una lengua franca y la lengua de trabajo, y de hecho funciona ya así, pero no deja de ser una lengua, la lengua nativa de los anglosajones. Podían funcionar dos o tres lenguas, el francés, el inglés, el alemán, como lenguas también comunitarias, o incluso crear una verdadera lengua, una interlingua, que ya hay proyectos de construcción que sería muy artificioso, pero incluso a partir de las lenguas germánicas y de las lenguas latinas, dado que el vocabulario común básico es un vocabulario latino, greco-latino, en el campo cultural podía incluso construirse ese elemento lingüístico-cultural. Pero el problema está en que para construir o para reforzar esos elementos culturales comunes sería legítimo una política coercitiva, intervencionista, fomentadora de esos elementos culturales y hacerlos cada vez más comunes. Y el límite estaría si esa política coercitiva no limitaría los derechos individuales o no limitaría el respeto de la diversidad lingüística y cultural. Entonces, ¿sería legítimo para construir esos valores acudir a una intervención de los poderes políticos, incluso una limitación de los derechos individuales, y poner en peligro uno de los valores culturales de Europa, que sería la diversidad cultural, lingüística y de todo tipo? Pero, en cierto modo, si se construye una comunidad política, Sartori lo tiene analizado cuando analiza el problema del multiculturalismo en las sociedades modernas, tiene que haber ciertos valores culturales comunes. Y eso supone una limitación de los derechos, en alguna medida, de las minorías, o una limitación de la diversidad cultural de las minorías. Entonces, ¿cómo compatibilizar eso?
Je pense que vous avez soulevé un problème tout à fait crucial, qui est celui de la langue que pourraient ou devraient parler les Européens. Et c'est un problème qu'on esquive beaucoup. Et pourtant, c'est un vrai problème. Parce que la devise donc, de l'Union européenne, c'est l'unité dans la diversité. Et le principe des institutions européennes, c'est donc d'être respectueuse de la pluralité linguistique des États européens, puisque les langues reconnues par l'Union sont les langues officielles des États, plus les langues de la co-officialité, hein, mais aux frais de l'État espagnol. Hein, c'est... Bon, donc actuellement, tous les travaux et tous les textes de l'Union européenne et des institutions européennes sont traduits dans toutes les langues officielles des États membres. Il y a 27 États membres, ça fait un petit peu moins de langues, mais il y en a qui ont plusieurs langues, langues officielles. Le coût est énorme. J'ai participé récemment à une réunion sur ce sujet de responsables européens. En fait, personne n'est capable de chiffrer le montant de la dépense liée à la diversité linguistique. On ne sait pas le chiffrer, on sait que c'est énorme. Alors il y a le problème de traduction dans les langues, puis après il y a le problème des discussions au sein du Parlement ou au sein des institutions européennes qui normalement appellent des traductions croisées. La combinatoire donne des résultats tels que, je crois, on dit qu'il faudrait un terrain de football pour mettre toutes les cabines de traduction déjà. Donc on n'aurait plus de place pour les députés, et même s'il y a des langues pivots, et d'autre part, les coûts aussi sont extrêmement élevés. Donc on commence à poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Une sorte de pragmatisme qui permettrait la communication, mais qui serait en quelque sorte plus démocratique, ou bien être respectueux de toutes les langues ? Il n'y a pas de solution au problème actuellement. Il n'y a pas de bonne solution, d'ailleurs, je pense. Alors, on peut dire que ce problème, et si on le pose réellement, répond à une des questions qui vient ici beaucoup, c'est celle des minoritaires. Parce qu'en fait, dans l'Union européenne, finalement, nous sommes tous minoritaires face à l'anglais, en termes linguistiques. Le français est devenu une langue minoritaire. Hein, et face à la multiplicité des langues, d'après ce que disent les hauts fonctionnaires de l'Union européenne, 95% actuellement de la commission effective au sein des institutions européennes se fait en anglais. Le français a quasiment disparu. Il reste une grande langue, une langue officielle, mais il a quasiment disparu dans les faits, puisque l'anglais est le moyen le plus simple de réunir tout le monde. Donc nous devenons tous minoritaires. Alors on peut dire c'est bien, c'est bien, comme ça nous sommes tous ramenés à égalité. La question c'est passons-nous tous à l'anglais ? Où nous sommes tous, sauf les Anglais, en situation de minorité plus ou moins ridicule en termes linguistiques, hein, plus ou moins mal à l'aise. Et on pourrait dire que le problème, c'est que finalement, deviennent en quelque sorte les maîtres linguistiques de l'Europe, les gens qui sont les plus eurosceptiques. Ce qui est un petit peu un problème. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que depuis quelques années ressurgit la question de l'espéranto. Et donc le rêve de... Ah, il faudrait une langue unique pour les Européens, qui ne serait la langue d'aucun, qui ne serait aucune langue nationale, et une langue qui les unirait. Mais il n'y a pas de réponse pour l'instant à cette question, mais je pense qu'il faudrait vraiment la poser. Parce que la politique actuelle, qui consiste à dire on est respectueux de toutes les langues officielles des États, est une politique hypocrite, je pense. Et puis en plus, elle ne favorise pas le débat, la discussion. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de démocratie. Et là, nous devons tous participer au débat et faire des choix.
En rapport à ces questions qui viennent d'être soulevées, c'est la question des langues. Et en même temps, un peu dans la dernière part de cette conversation, nous parlons à propos et on retournait à la question de qu'il faut refaire le modèle de l'Europe. Non, peut-être il faudrait construire un modèle tout. bien de les voir très bien à propos des langues. Non, on parle de langues de différentes langues qui sont parlées dans les États, mais ça, ce n'est pas la question, parce qu'il y a des langues qui sont parlées à différents États. On parle des minories, mais par exemple, les Catalans défendent une fois une autre qu'ils ne sont pas une minorie. Il y a des 9 millions de parlants de catalans, il y a beaucoup moins de Finnoises, non? Il y a beaucoup moins de Maltaises, non? Par exemple, non? Il y a plusieurs exemples, non? Alors, on doit refaire l'Union européenne à partir d'un modèle différent, bien entendu, que tient en compte l'idée nationale des petites nations. Je ne sais pas si c'est correct de dire des petites nations, mais une idée nationale différente qui en même temps reprend l'idée des langues, non? C'est-à-dire les communautés de culture différentes, non? C'est-à-dire, il faut les mettre en question, parce que si on repense l'Union européenne à partir de l'idée des États, on fait un boucle un peu équivoque, je crois, non? Alors, je crois que c'est important de laisser de côté l'idée des États une fois et une autre, non? Ou cette vision des principes que ce sont les États, la façon basique à partir de laquelle on révise, non? Ou on repense l'Union européenne, non? C'est-à-dire, il y a là un problème, non? Les États nationaux ont été en réalité très importantes, c'est-à-dire, vous l'avez expliqué très bien, mais il y a aussi une autre réalité politique qu'il faut mettre au premier terme, pas comme un exemple secondaire, mais comme un sujet avec un énorme protagonisme. Je ne sais pas si je m'ai bien expliqué, mais ça c'est mon idée, non? Je crois que c'est un peu l'exemple de la Galice, l'exemple de la Catalogne, vous avez mentionné l'Écosse, non? Nous sommes des protagonistes dans l'Europe maintenant et nous n'avons pas ce protagonisme proportionnel dans la construction de l'Europe, non? Je crois que c'était très important.
Oui, je vous remercie de votre intervention qui me semble aller dans le sens de ce que j'essaye de faire passer ici, à savoir que se situer dans une perspective d'Union européenne permettrait, à mon sens, de poser autrement et peut-être de manière plus satisfaisante des problèmes qui, posés dans le cadre de l'État-nation, sont absolument insolubles. Parce que si on reste dans le cadre de l'État-nation ou du modèle de l'État-nation, toute affirmation d'une nation sans État ne peut avoir qu'une solution satisfaisante, c'est en faire un nouveau État-nation, un nouveau plus petit État-nation. Et d'ailleurs, cette fragmentation en État-nation petit, c'est quand même assez typique de l'évolution de l'Europe depuis le début du XIXe siècle. Il y a beaucoup plus d'États en Europe maintenant qu'il n'y en avait au milieu du XIXe siècle, puisqu'on a la géopolitique a imposé des États-nations de plus en plus petits. Oui, mais où s'arrêter à ce moment-là? Et ça fait des États aussi de plus en plus impuissants face à des problèmes qui sont de plus en plus planétaires, globaux. Donc je pense que replacer toutes ces questions dans le cadre d'une Union européenne qui devrait répondre à un modèle différent de celui de l'État-nation, c'est-à-dire non pas simplement la coïncidence entre un territoire, un État et une communauté culturelle, essayer d'imaginer de nouveaux modèles permettrait de dépasser cette impasse. Et peut-être de prendre en considération, sous des formes nouvelles, ces problèmes sur lesquels on bute. Sortir de l'État-nation, effectivement, mais en pensant les choses autrement.
Bonjour, je voudrais vous remercier également pour votre intervention qui me semble très intéressante. Et par rapport à ce que vous êtes en train de parler maintenant, j'appartiens à une génération qui nous a fait croire à l'Europe et pouvoir participer dans les programmes d'Erasmus, voyager partout librement, mais qui crée aussi beaucoup de frustrations, je pense, une fois qu'on a voyagé partout, qu'on a fait des études universitaires ailleurs, qui sont quand même valables après ici en Espagne, il y a des choses qui se passe très facilement, mais après, on revient, on se sent qu'on est toujours dans la même situation, dans les domaines universitaires, dans les domaines politiques, dans les domaines de la recherche. On est européen, on travaille et on se sent égaux. et après on retourne. Et il faut encore une fois s'identifier comme appartenant à une communauté, soit galicien, soit catalan. Et pour moi, c'est très frustrant. Merci.
Eh bien, vous appartenez aux générations qui vont faire l'Europe et qui doivent le faire. Faites-le. Puisque vous avez pu justement faire l'expérience d'une sortie de cadre un peu trop rigide, déterministe. Maintenant, changer le monde. Hein. Pas nous, changer l'Europe.
Pour nous, on pensait qu'il y avait des choses qui étaient faites. Parce qu'on les sentait que... Ça fonctionnait, qu'on se sentait égaux, hein, et que si dans l'université on peut travailler de cette manière, pourquoi pas après dans d'autres domaines. Peut-être c'est faisable.
Le monde n'est pas parfait, le monde est en permanence à améliorer. C'est le cas de l'Europe, c'est le cas de votre pays, du mien. Bon, à vous de poursuivre. Bon, nous avons pour l'instant quand même réussi à avoir depuis la Seconde Guerre mondiale une Europe en paix. C'est déjà une grande conquête hein, par rapport à ce qu'ont vécu les générations précédentes.
Sí, quisiera plantearle dos cuestiones y una interrogación final. La primera cuestión, como historiador, me interesa el papel que tiene la historia como vertebradora de esa búsqueda de los caracteres de identidad. De los caracteres originales de la pureza de los estados o de las naciones. Y en ese sentido, quizás he echado de menos que a la hora de reforzar esa idea de la modernidad, de lo que es la construcción de la identidad en el siglo XIX, hayamos dejado de lado que esa construcción de la identidad se hace sobre todo un esfuerzo de construcción ideológica, pero al mismo tiempo recogiendo topoi que proceden de las imágenes de la monarquía medievalizante del siglo XVI, del siglo XV, etcétera, etcétera, reconstruidos en lo que es el lenguaje de la modernidad. O sea, quiere decir que en ese sentido el Estado moderno, la ruptura con el antiguo régimen, es una ruptura hábil porque, digamos, culturalmente reconduce toda una serie de elementos de figuras del antiguo régimen a lo que es la construcción de las identidades modernas. Esa es la primera cuestión que quería plantearle y que quizás no quedaba, no la he visto suficientemente resaltada. La segunda es, estoy de acuerdo en que la construcción de los procesos de búsqueda de las identidades se realiza de una manera metodológicamente semejante en el conjunto de los países. Y diría más, de una manera metodológicamente semejante para los estados y para las naciones sin estado. O sea, quiere decir, para los nacionalismos emergentes. Eso hace, desde mi punto de vista, que a la hora de resolver la dualidad de las reclamaciones emergentes de los nacionalismos en Europa sea tan difícil de resolver el problema, porque realmente la propuesta es idéntica. Digamos, es idéntico la propuesta del Estado-Nación que la propuesta del Estado emergente. Se basa esencialmente en los mismos caracteres y a través de los mismos procedimientos. La interrogación es, ¿qué es lo que nos espera? ¿Trasladar nuestro modelo nacionalista, idealista, al supraestado europeo? ¿Crear un nuevo modelo idealista? ¿Crear otro modelo materialista o funcionar con un repertorio de estrategias rentables, digamos, y aparentemente no ideológicas?
Merci de votre question, c'est très riche. Je suis désolée, je n'ai pas réussi à suivre votre argumentaire en espagnol. Concernant l'utilisation du patrimoine du Moyen-Âge dans la modernité, je ne suis pas sûre d'être compétente pour vous répondre parce que je connais mal le monde du Moyen-Âge et je pense que vous le connaissez beaucoup mieux que moi et qu'il faudrait donc un débat assez long pour voir la question. En ce qui concerne la question des États, si j'ai bien compris, l'État dans lequel se constitue une nation ou la nation qui aspire à la souveraineté, est-ce qu'on a des logiques identiques? En termes sociaux, probablement pas, ce ne sont pas nécessairement les mêmes groupes qui interviennent dans un cas et dans l'autre, mais en termes en quelque sorte d'ingénierie culturelle, oui, les procédures sont les mêmes. Parce que il y a en quelque sorte élaboration à partir du XIXe siècle d'une sorte de norme de référence pour définir ce qu'est une vraie et une fausse nation. Donc dans les deux cas, on va s'y référer. Mais si j'ai bien compris, par exemple, le cas d'un État qui devient nation, comme c'est le cas de la France, à partir du début du XIXe siècle, ou le cas ici de la Galice qui se constitue comme nation contre un État, bon, il est évident que ce n'est pas les mêmes groupes sociaux qui vont conduire l'opération. Mais simplement, on va utiliser les mêmes catégories. Mais avec évidemment des forces et des moyens d'action assez différents. Oui, par exemple, bon, il y a quelques. Oui, si on prend le cas de la France, par exemple, bon, dans le cadre de la France, on va construire une identité nationale forte à partir donc des années qui suivent la Révolution française, hein, puisque la nation culturelle française n'existe pas avant. Il se trouve que la France est un État, pour faire un anachronisme, multiculturel sous l'Ancien Régime. Il y a des langues extrêmement différentes, enfin parlées dans le territoire français. Bon, il y a construction d'une communauté culturelle unifiée autour d'une langue unique. Mais en même temps, à partir du XIXe siècle, on a aussi élaboration, dans le cas français, de langues nationales différentes du français, le breton, le provençal, d'autres exemples, mais ces langues nationales qui sont constituées au XIXe siècle le sont sur le standard des langues nationales européennes. On va construire une langue nationale bretonne moderne selon les mêmes principes que la construction du tchèque, par exemple. Et ce sont des intellectuels qui sont en relation les uns avec les autres dans l'espace européen, qui transitent beaucoup par les frères Grimm, qui sont une plaque tournante de la philologie, qui vont élaborer le breton, le tchèque, le serbo-croate, le norvégien, etc. Et selon des procédures identiques et avec les mêmes références philologiques et les mêmes références idéologiques aussi. Alors, dans le cas français, ces affirmations, ces constructions de langue nationale, ces affirmations de culture nationale, infra-française, hein, dans le cadre de la Bretagne, dans le cadre de la Provence construite par Mistral, ça ne débouche pas sur une revendication d'État souverain, sauf de manière rhétorique. Bon, là, on peut, à ce moment-là, analyser le fait que la modernisation économique et la modernisation politique de la France donnent un intérêt relativement limité à ces constructions nationales et à ceux qui les portent culturellement. Ça donne un intérêt limité à aboutir à la phase de demande d'une autonomie en termes d'État, ce qui sera différent de ce qui se passe, par exemple, en Catalogne à partir d'un certain moment. Mais les procédures culturelles, l'ingénierie culturelle, elle est la même. Et ça ne marche que parce que c'est la même chose.
hay una pequeña diferencia.
Vous venez de dire que la nation culturelle française, elle n'existe pas. Alors, est-ce qu'elle existe, la nation culturelle espagnole? Et une autre question encore. Croyez-vous que dans la actuelle organisation espagnole, un État qui n'est pas fédéral, mais c'est une autre histoire, il y a eu un essai de application de la méthode de cette liste identitaire.
Je crois, je n'ai pas dit que la nation française n'existait pas culturellement. Elle a été construite comme les autres. Elle n'existait pas en 1789. La nation française avec une culture unitaire, certainement pas. Elle existe à la fin du 19e, certainement, et depuis, oui. En ce qui concerne l'État espagnol, ben vous le savez beaucoup mieux que moi, il y a eu tentative et volonté aussi de construire un État-nation selon le modèle européen qui imposait en quelque sorte cette norme. Mais on sait aussi qu'il y a des retards énormes en termes de modernisation économique, sociale et politique qui donne à cette construction beaucoup moins d'intérêt qu'elle ne peut présenter pour les populations françaises à la même époque, et qui rend beaucoup plus intéressantes des constructions de type Catalogne, Pays Basque ou Galice. Si la Bretagne n'est pas devenue, ne s'est pas constituée en une nation pouvant légitimement réclamer un État, c'est pas parce que la langue bretonne était moins intéressante que d'autres, ou parce qu'elle avait été plus mal construite. Elle a été construite avec autant d'amour, de perfection, et d'intérêt sans doute que le tchèque. C'est que l'idée d'avoir un débouché politique à ça, et en termes d'indépendance, présentait certainement beaucoup moins d'intérêt.
Et pour revenir à la France, une question pour moi. C'est ma foi. C'est que on pourrait dire que le ministère de l'identité nationale.
Alors, oui, la question est épineuse. Enfin, c'est une... Alors, le ministère de l'identité nationale a été créé très clairement pour traiter de la question de l'immigration et aussi pour permettre de faire se reporter sur le candidat Sarkozy et aujourd'hui le président de la République française des voix qui partaient vers l'extrême droite. Et l'extrême droite française a disparu électoralement et politiquement maintenant, puisque donc les aspirations qu'elle exprimait se retrouvent là-dedans. Ce ministère d'identité nationale était construit très clairement, et c'est l'objectif d'ailleurs qui a été assigné au ministre en charge de ce ministère, s'occuper de l'immigration et de s'occuper d'expulser hors de France des immigrés clandestins. Lorsqu'il s'agit d'identité nationale, là, on ne parle pas du tout de questions régionales ou de questions des langues nationales à l'intérieur de la France. Ça ne veut pas dire que cette question ne se pose pas. Et je vais vous énoncer quelque chose qui va peut-être vous surprendre. L'article 2 de la Constitution française précise « Le français est la langue de la République ». Cette indication est présente dans la Constitution française depuis 1992. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais éprouvé le besoin dans les constitutions françaises antérieures d'évoquer la moindre question linguistique. Ça a été introduit en 1992, ce qui peut paraître très curieux, puisque tout le monde en France parle français aujourd'hui. Alors, pourquoi cette précision? Elle a été introduite au moment de la révision de la Constitution française, préparatoire au traité de Maastricht, puisque c'est à cette occasion-là qu'on a revu les articles de la Constitution. Et à l'époque, on a annoncé, c'est très très curieux hein, de ce qui s'est passé parlementairement, et ça a échappé à beaucoup de Français d'ailleurs, que la nécessité de lutter contre l'invasion de la langue anglaise dans la communication en France nécessitait cette introduction d'un article linguistique dans la Constitution. Et puis très vite, cet article, ça a servi à lutter contre les langues régionales, et notamment le corse, puisqu'il y avait à ce moment-là des revendications de définition d'une spécificité de la Corse. Et la présence de cet article dans la Constitution a permis de rejeter la ratification de la Charte des langues régionales et minoritaires, puisque la Charte des langues régionales et minoritaires européenne a été déclarée contraire à la Constitution française. Dans un premier temps, le président Chirac avait demandé une acceptation limitée de cette charte, ce qui était possible hein, dans les textes. On pouvait l'accepter partiellement. Et puis, le Conseil constitutionnel, qui a été saisi de l'affaire, a déclaré « Ah non, c'est contraire à la Constitution, donc nous n'avons pas ratifié la charte. » Donc, les individus qui sont à l'œuvre derrière cette mise en avant de la langue française comme définissant l'identité française sont en fait ceux qu'on appelle les souverainistes et qui donc ont combattu avec la même énergie toutes les perspectives de régionalisation politique et administrative de la France dans les dernières années et qui ont combattu le traité constitutionnel européen. Sont les mêmes hein, qui refusent la régionalisation de la France et l'européanisation. Et secondairement, effectivement, l'entrée d'une problématique du multiculturalisme et donc des cultures immigrées dans la France.
L'espagnol, c'est la langue officielle de l'Espagne. Tous les Espagnols ont le devoir de les connaître et le droit de les utiliser. Mais on a entendu qu'autres langues, dans l'État espagnol, on peut utiliser. Par exemple, les Galiciens. D'accord. La question que je vous propose, mais nos questions, c'est seulement un commentaire, c'est sur le sujet de l'utilisation d'une langue fictice dans l'Union. Une langue fictice, falsa, dans l'Union européenne, qui était une proposition que j'écoutais dans cette table. Je ne crois que c'est une solution pour le problème. Vous avez parlé de l'espéranto. L'expérience que nous avons sur l'espéranto, c'est quoi qui est mauvais? En général, il est mauvais. Il s'agit d'une création artificielle, et comme toutes les créations artificielles, il y a beaucoup de défaits. C'est une langue qui fut créée avec des Russes de la langue serbo-croate. Alors, il y avait beaucoup de difficultés. Difficultés pour les pays de l'autre orbite de les parler. Alors, c'est quoi? Que seulement il y avait une possibilité d'utiliser une langue nouvelle, seulement pour la langue administrative, politique, mais nous pour tous les citoyens européens. Je crois que la proposition qu'ils ont fait d'utiliser la coercion, c'est inadmissible pour moi. Et je crois qu'il n'est une solution pour le problème. Seulement, merci.
J'ai pas de réponse à apporter à la question que vous soulevez. Je pense qu'il n'y a aucune bonne solution à cette question. Je pense que les Européens devraient s'en préoccuper pour essayer de choisir la moins mauvaise solution. Alors, concernant la question de la langue artificielle, on peut dire que des langues artificielles sont devenues des langues naturelles et des langues vivantes. Je pense que le cas de l'hébreu moderne, qui est vraiment un cas tout à fait stupéfiant d'une langue qui a été créée en quelque sorte de toute pièce hein, pour devenir une langue de communication, et ça a marché. Et c'est une vraie langue. dans laquelle on peut écrire de la littérature, faire des débats politiques, disputer ses enfants quand ils s'énervent, enseigner toute espèce de discipline. Donc une langue créée en laboratoire, ça peut devenir une langue vivante s'il y a une adhésion très très forte, une mobilisation très forte de gens qui veulent s'instituer en communauté. Bon, autrement, moi j'avais dit, bon, si, j'avais dit une fois en guise de plaisanterie, si une langue artificielle peut paraître choquante, bah, autant que les Européens adoptent une langue vivante, mais que tous ignorent. Comme ça, ils seront tous à égalité. J'ai proposé que nous apprenions tous l'islandais, par exemple. Comme ça, ça favorisera personne et nous aurons une vraie langue pour communiquer entre nous et nous aurons tous les mêmes difficultés à la parler. Nous serons à pied d'égalité. Bon, c'était une plaisanterie, évidemment. Bon, une autre question qui peut se poser, c'est de sortir du monolinguisme, qui est une création de la modernité et qui nous impose d'utiliser le même matériau linguistique pour tous les usages. Après tout, on pourrait aller puiser dans la période pré-nationale finalement une ressource qui était celle de dissocier les matériaux linguistiques en fonction des usages et de nous dire que nous pourrions avoir une langue commune pour certains usages et puis nos langues nationales ou voire langues nationales multiples pour d'autres usages. De sortir du principe du monolinguisme territorialisé et d'avoir à nouveau des communications multiples. Mais c'est un débat à avoir. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes et d'idéales solutions. Il faut en trouver une qui fonctionne, surtout.
Personne, il ne faut pas comprendre les Finnois si un Finnois peut parler l'anglais ou une langue prochaine. C'est la plus mauvaise solution. Mais je voudrais vous demander une question sur un autre point. Je vous demanderai une petite réflexion à propos de la position de la France actuelle, ce pays monocentrique, monoglossique, pas seulement monolinguistique, monoglossique, et hiérarchisé, et vis-à-vis le processus de construction de l'Europe.
Vous savez, le projet de constitution européenne, de traité de constitution européenne a été soumis par référendum en France et il a été rejeté par une majorité de Français. Bon, c'est un fait. Et d'autre part, il faut quand même souligner que cette question du positionnement par rapport à l'Europe a profondément divisé les partis politiques à l'intérieur même des partis. On n'a pas eu une opposition droite versus gauche. On a eu des oppositions à l'intérieur même des partis, avec un positionnement des partis d'extrême gauche, pourrait-on dire, ce qui reste du Parti communiste et les partis groupés autour du trotskisme, très hostiles au traité, qui ont fait campagne contre, et donc des divisions aussi très fortes internes à la droite. La division du Parti socialiste sur cette question de la ratification du traité est probablement à l'origine de l'explosion actuelle du Parti socialiste, qui n'est plus qu'une fiction de nos jours, enfin, et qui est en train d'essayer de rechercher à rebâtir une unité. Donc c'est vraiment une question qui a profondément divisé les Français. Et qui, à mon avis, a montré que la construction européenne, comme beaucoup d'autres Européens, mais sans doute plus particulièrement en France, qui a été un des premiers pays à y participer, le premier club des six, la construction européenne, ça apparaît depuis 50 ans comme une construction menée d'en haut par les élites, pour leurs propres intérêts, une affaire d'État entre eux, et pas une affaire des citoyens. Et ça a traduit une profonde incertitude, angoisse des citoyens face au cadre européen qu'ils n'arrivent pas à comprendre politiquement. Je crois autant nous comprenons l'Europe concrètement en termes de vie quotidienne, voire en termes de monnaie, autant en termes politiques, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais parce que l'Europe, elle n'a pas fonctionné de manière comme un projet collectif, discuté démocratiquement depuis 50 ans. et particulièrement dans le cas français. Et je crois qu'il serait temps qu'on se mette à discuter de ce projet et de ce que l'on veut en faire.